On a un Marocain au milieu de nous, donc je lui ai dit que j'étais content de voir un Marocain ici. Et à tous, je dis Rabbi Berikoum, hein, que le Seigneur vous bénisse. Hein, hein. Oui, c'est une joie pour moi d'être là, effectivement. Alors, ce n'était pas un tapis marocain, parce que c'est difficile à s'entourer dans un tapis marocain, bien que hein, c'est une couverture marocaine. Hein. C'est un détail qui est très grande importance. L'image que j'avais, si tu veux, c'est quelqu'un enroulé dans son tapis qui avance comme ça. Mais je vous promets qu'en revenant de ce mariage, j'étais tellement, mais vraiment, mais d'une tristesse, non pas à cause du mariage, mais je suis revenu avec un fardeau. Je ne savais pas ce qu'était un fardeau. J'étais converti depuis quelque temps. Luc a oublié de dire, on s'est converti, mais enfin, c'est lui comme lui qui m'a annoncé le message, quoi, hein, en fac de philo. Et c'est au travers de ce couple que j'ai rencontré le Seigneur. Hein. Et donc j'étais tout jeune chrétien, ça venait de se passer en février, Luc, tu m'avais amené au Seigneur. Hein. Tous les deux m'avaient amené au Seigneur en février. Et en juin, juillet, hein, ça doit être ça, j'étais donc de retour de ce mariage parce que j'avais aidé un ami à épouser une Marocaine qui était rentrée illégalement en France. Hein. Elle n'est pas la seule, je crois, savoir. Dans le coffre d'une caravane, je ne sais pas si vous imaginez, elle avait traversé, dans le coffre d'une caravane, était rentrée en France, et ça s'appelle Huria, ça veut dire la liberté. Hein. Huria, ça va comme ça? Huria. Hein. Shukran, bro. Huria. Et vraiment... Donc on avait fait les papiers, tout ça. Il m'avait dit, j'aurais trop besoin d'une attestation. Il fallait que tu puisses faire un gros mensonge pour moi. Je dis, écoute, manque de peau, tu serais venu quelques semaines plus tôt, c'était possible. Maintenant, je suis chrétien, là, t'es... Mais je te promets, par contre, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Enfin bon, on a fait des lettres. Et puis on a obtenu gain de cause. Il a pu se marier avec sa femme marocaine. Et puis après, il a dit, maintenant, on a fait le mariage en France, il faut faire le mariage au Maroc. Ce que j'ai fait au Maroc... Une semaine extraordinaire, vraiment. Et puis quand je monte dans le taxi, je me retourne pour dire au revoir. J'ai les larmes qui commencent à couler. Je me demande ce qui m'arrive. J'ai l'impression de voir partir ma famille. Je dis, ça ira mieux à l'aéroport de Oujda. Et là, pareil, une tristesse incroyable. Je dis, ça ira mieux dans l'avion. Ça n'allait pas mieux dans l'avion. Ça ira mieux à Marseille. Ça n'est pas mieux à Marseille. Ça ira mieux dans le train. Puis je dis, il faut absolument, là ça doit être un démon, c'est pas possible. Et Luc, comme il m'a amené au Seigneur, je lui dis, il faut absolument que ce gars prie pour moi, qu'il me délivre de cette puissance démoniaque quoi, qui me saisit. Là. Donc je suis allé voir Luc, je lui dis, écoute Luc, je sais pas ce qui m'arrive, en pleurant comme ça, je lui dis, il faut que tu pries pour moi. Et je me rappellerai toujours, Luc, il commence à prier, à chasser l'enfer. Et puis il ouvre les yeux et j'étais dans le même état, si ce n'est pire. Alors j'étais mal, quoi, et lui aussi d'ailleurs. Et puis je me souviens d'avoir lu dans son visage une sorte de dire, bah, écoute Pierre. Et puis je me rappelle, hein, il y avait plein d'orties dans le jardin. Alors il faut absolument que je me change les idées, je suis allé couper les orties. Mais alors je coupais les orties, je pleurais de plus belle. Et puis je suis tombé effectivement sur un livre à cette époque-là que je ne connaissais pas, bien sûr, j'étais tout jeune chrétien. C'était... Votre rendez-vous avec Dieu de Gwen Shaw, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu. Si vous lisez ce bouquin, faites gaffe, parce que vous n'avez plus avoir envie de manger après. Et j'ai dit, ça doit être ça la solution. Et je me rappelle, j'avais donc cette couverture marocaine et je m'endormais le soir. Mais c'était grave, hein, c'était grave ce qui m'arrivait, il faut que vous compreniez. Parce que je m'entourais dans cette couverture et je respirais la couverture pour me rappeler le Maroc. Quoi, hein. Je pense qu'il n'y a que les émigrés marocains qui peuvent comprendre ça. Hein. N'est-ce pas, mon frère ? Et le mal du pays, quoi. Alors que ça faisait une semaine seulement que j'avais passé là-bas, mais un mal du pays que si on est né là-bas quelque part, c'était vraiment très grave pour moi, vraiment très grave. Et donc j'ai commencé à me mettre dans cette couverture, à jeûner et prier. Et puis alors là, les pleurs ont pris une dimension qui m'ont dépassé complètement, quoi. C'était des grands cris, des grandes larmes. Et ce verset que j'ai lu plus tard, c'est avec de grands cris, avec larmes, justement, que le Christ a intercédé. Hein. Et en fait, c'est le Christ qui est venu intercéder au travers de moi pour ce pays, pour l'Afrique du Nord, je pense, mais en tout cas en particulier pour ce pays. Et il y avait une telle pureté de sentiment, il y avait une telle agonie de sa part en moi, ça ne pouvait pas être moi, quoi. Je le sentais bien. C'était tellement pur, ça ne pouvait pas non plus être moi. C'était tellement fort, tellement fort. Et c'est comme si Jésus venant prier au travers de moi, il me communiquait en même temps ce qu'il pensait de ces gens-là, de ce peuple-là. Rabbi Yassou, Pek Bzef, Maghribi, Bzef, Bzef. Le Seigneur Jésus aime passionnément le Maghreb. Bzef, Bzef. Boumtez. Et vraiment, c'est autre chose quand vous avez imaginé que Jésus vienne vous dire, écoute Pierre, j'ai l'intention de faire de toi un missionnaire, j'aimerais te parler de mon fardeau pour le Maroc. Ouais. Ça n'aurait pas eu du tout à avoir le même poids, quoi. Que si, priant au travers de moi, il me communiquait de l'intérieur, comme ça, son cœur pour ces gens-là, quoi. Hein. Voilà. Et puis, comme l'a dit Luc, c'est seulement, comme l'apôtre Paul, après tout, seulement des années après que le ministère a vraiment commencé. Et nous y sommes actuellement. Priez, s'il vous plaît, pour le Maroc. Priez pour le monde arabe. Hein. C'est un très très beau peuple, très très beau peuple. Ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous partager quelque chose que vous pourrez retrouver dans ce livre d'ailleurs, et qui est vraiment quelque chose qui brûle tellement sur mon cœur, c'est la notion d'héritage. Vous savez, quand j'ai étudié cette parabole du fils prodigue, mal nommé fils prodigue, parce qu'en aucun cas le Seigneur a voulu nous parler du fils prodigue, plus que son fils aîné, plus que lui-même d'ailleurs. Le but de cette parabole, c'est de nous montrer qui nous sommes et en même temps qui il est lui. D'ailleurs, on ne peut pas le voir comme père si on ne voit pas en même temps qui nous sommes profondément. Il faut que nous ayons une révélation de qui nous sommes, en même temps pour savoir aussi qui il est. Et c'est tout le rôle de cette parabole. Et il y a un personnage dans cette parabole qui est extraordinaire, c'est l'aîné. Et l'aîné, il a un gros problème avec la notion d'héritage. Et quand je méditais, ça fait des années, comme le dit Luc, je médite sur ce thème-là de l'héritage. Parce que l'héritage, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est aussi dans nos familles, ça peut être aussi l'objet d'une souffrance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les familles se divisent sur un thème, l'héritage en général. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup plus de puissance qu'on peut le croire. Ce n'est pas simplement de l'argent, l'héritage. Il y a quelque chose qui va bien au-delà de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que personnellement, j'ai laissé passer un héritage, personnellement, dans ma propre famille. Et je vois que 20 ans encore après, il n'y a pas si longtemps, une nuit dernière, en repensant à ça, j'étais pris d'une douleur dans mon cœur qui s'est réveillée comme ça. C'est quelque chose de très important, l'héritage. Et la vie m'a appris une chose, c'est qu'un héritage qu'on laisse tomber, c'est rare qu'on puisse le récupérer. Ce qu'on laisse tomber, quelqu'un d'autre le ramasse. Hein? Laissez tomber votre montre là en sortant, vous allez voir si demain elle sera encore là. Hein? Je veux dire, pas pendant cette église. Hein. Je rassure le pasteur. Non, je pensais le parking, Luc. Le parking, pardon. Non, ici, il n'y a que des saints, on l'a entendu ce matin, n'est-ce pas? Donc, il n'y a que des gens parfaits, et vous l'êtes, hein, n'est-ce pas? Et donc, simplement pour vous montrer que ces histoires d'héritage, c'est quelque chose de très important. Et en lisant cette parabole, en la méditant, je me suis rendu compte à quel point c'était problématique chez l'aîné. Et il me semble très important que nous ayons une idée claire, déjà que nous sommes héritiers, et on va lire un passage pour ça, mais que nous ayons encore peut-être une idée encore plus claire de quoi nous sommes héritiers. Parce que dans le monde, je ne connais pas beaucoup d'héritiers qui ne se préoccupent pas de savoir de quoi ils vont hériter. Je ne sais pas si vous avez remarqué. En général, chez les païens, on va dire, quand quelqu'un sait qu'il va hériter, en général, il est assez au courant de ce qu'il va hériter. Mais bizarrement, au milieu du peuple de Dieu, ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde sait qu'il est héritier, mais il ne sait pas de quoi il va hériter. C'est assez étrange. Alors qu'on devrait avoir une idée très très claire, au contraire, de ce qui appartient à notre héritage. Pourquoi nous devrions avoir une idée très très claire de ce qui appartient à notre héritage? Parce que si nous sommes imprécis là-dessus, si l'ennemi veut voler quelque chose de cet héritage, il le volera d'autant plus facilement si nous ne savons pas de quoi nous avons hérité. Vous comprenez? S'il y a une liste des choses que nous devons hériter, que nous ne sommes pas au courant de ces choses. Oh, il y a un point où je suis sûr que vous le savez par cœur, ça. Mais je suis sûr qu'on ne sait pas de tout de quoi on doit hériter. Alors donc, s'il y a cette imprécision, l'ennemi peut plus facilement aller prendre ce que nous ne savons pas. Par contre, pour les choses que nous savons bien, que nous devons hériter, que nous héritons, eh bien, il y a une sorte de... je dirais, de vigilance de notre part, voire même une hardiesse à aller dire « Non, 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 je ne lâcherai pas cet héritage, c'est à moi, ça m'a été donné à cause du sacrifice de Jésus. Hein? » Pour l'héritage aussi, je voudrais dire la puissance de l'héritage, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un héritage si ce n'est de recevoir à cause de la mort de quelqu'un tout ce que sa vie et son labeur nous offrent par sa mort. C'est ça, finalement, un héritage. Un héritage, quand quelqu'un reçoit un héritage, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cet héritage? Rien. Dans la notion d'héritage, il n'y a aucune notion de mérite qui est associée. C'est quelque chose de légal. Il suffit que tu sois né dans la famille et tu es héritier. Eh bien, quand on parle du christianisme, il y a un héritage aussi. Il suffit que tu sois né dans la famille, ça t'appartient. Mais ça t'appartient parce que quelqu'un est mort aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité aussi. Autrement dit, il sera au milieu de cet héritage aussi. Hein? Un passage que j'aimerais qu'on puisse lire pour commencer, c'est ce passage qui est juste à l'intermédiaire entre le chapitre 3 et le chapitre 4 de Galates. Donc, est-ce qu'on peut montrer Galates, le dernier verset de Galates 3 et Galates 4, verset 1? D'ailleurs, c'est une honte qu'ils aient mis un changement de chapitre en plein milieu d'un développement de Paul. Ça, c'est vraiment nul hein, d'avoir fait ça. Voilà. Alors d'abord, ce verset extraordinaire. Hein, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Hein. » Donc, c'est ce que nous sommes pleinement. Or aussi longtemps que l'héritier, vous voyez, or aussi longtemps, on voit bien que ça continue, et là on vient de changer de chapitre, allez comprendre. Hein? Enfin bon, or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, verset suivant. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Regardez cette expression extraordinaire, jusqu'au temps marqué par le Père. Autrement dit, l'héritage, il semblerait que dans le cœur de Dieu, c'est quelque chose qui ne se donne pas tout de suite. Pour une raison simple, c'est qu'un héritage reçu trop rapidement peut aussi écraser quelqu'un. Autrement dit, Dieu donne des tuteurs et des administrateurs pour nous faire grandir à cette maturité qui fera que, atteinte cette maturité, nous pourrons recevoir l'héritage et cet héritage nous bénira au lieu de nous écraser, au lieu de nous maudire. Hein? Imaginez, on ne donne pas un bazooka à un enfant de 14 ans. Par contre, on peut peut-être le donner à un soldat, on peut peut-être le confier à un soldat qui a 5 ans d'entraînement derrière lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'une question d'échelle. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses qui nous sont interdites? Non, il y a des choses qui ne sont pas interdites, il y a des choses qui sont prévues pour une saison. Et finalement, quand on réfléchit, tout le problème de l'humanité tient à cela. Le jardin d'Éden, ça a été ça, au fond. Toute crise d'adolescence aussi consiste à cela. C'est-à-dire que finalement, une crise d'adolescence... c'est finalement un petit livre de la Genèse en miniature, je m'explique. Il y a un héritage qui devait être donné aux hommes, celui de la connaissance. Et le diable est venu il est venu en mentant en disant, Dieu ne veut pas donner la connaissance. Si Dieu veut donner la connaissance, mais il y avait une saison et une manière. Et qu'est-ce qu'a fait le diable? Il a voulu précéder le temps et donner afin de pousser finalement le jeune couple, au fond, à saisir l'héritage trop tôt. Il n'a pas accepté d'être sous cette période de tuteur et de curateur, et à cause de ça, eh bien, il a voulu voler, prendre en avance ce qui était de toute façon prévu pour lui. Et à cause de ça, la mort est rentrée dans le monde. La crise d'adolescence, au fond, ça a quelque chose à voir avec ça. C'est-à-dire que, finalement, le diable vient parler à l'adolescent en lui disant « prends tout de suite ce pouvoir, prends tout de suite cet argent, prends tout de suite cette sexualité, parce qu'elle t'appartient. » Oui, elle t'appartient, mais il y a un temps pour ça. Et accepte d'être encore quelques années encore, sous un tuteur et un curateur. Parce que quand les choses te seront données, ça sera une bénédiction. Mais si tu les prends pour toi trop tôt, ça va te maudire. C'est ce qui s'est passé avec Adam, c'est ce qui se passe aussi avec ce qui peut se passer dans chaque famille avec nos adolescents. Donc il y a quelque chose d'important à comprendre. Il y a un temps fixé par le Père. C'est un temps marqué non pas par un homme de loi, mais c'est un temps marqué par celui qui te connaît intimement, qui te dit, je vois que quand tu auras atteint ce niveau-là, là, je pourrais te donner, je pourrais te confier ton héritage. Ça me rappelle, vous savez, ces petites marques que l'on met dans les maisons avec un petit stylo comme ça, un crayon. On mesure nos enfants, puis on marque, on met une date et on met une mesure. Je pense que quelque part dans l'esprit, le Père a marqué aussi quelque part sur un chambranle d'une porte, je ne sais pas où elle se trouve, mais en tout cas qui se trouve dans le cœur du Père, te concernant, il y a une marque qui est marquée là de la part du Père en disant quand il aura atteint ce niveau-là, je pourrai lui confier l'héritage. Et je sais que ça ne le détruira pas. Mais en attendant, acceptons d'être sous des tuteurs, sous des curateurs, pour grandir jusqu'à cette maturité-là. C'est quelque chose qui appartient au Père, c'est quelque chose qui appartient à son amour, non pas à son contrôle, mais à son amour et à sa bienveillance pour chacun d'entre nous. Dieu veut nous donner. Qui est-ce qui est heureux ici que Dieu n'ait pas répondu à toutes ses prières? Il y a un film américain, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Comment il s'appelle ce film? Où un gars était devenu Dieu là pendant quelques instants. Bruce Tout-Puissant. Écoutez, il faut avoir vu ce film pour être heureux de savoir que Dieu n'exauce pas toutes les prières, et heureusement quoi. I got the power! C'est excellent. To get the power, avoir la puissance, c'est bien, mais there is a time to get the power. Hein, je crois que c'est ça le message du film. Il y a une scène dedans, écoutez, moi, chaque fois que je la vois, j'en peux plus de rire. Franchement, et voyez ce film en pensant à Galates 3, verset 4, c'est assez inhabituel, mais je veux dire, il faut absolument lire ce film. D'ailleurs, on devrait mettre Galates 3 et 4 en exergue de ce film, Bruce Tout-Puissant, Galates 3, verset 22, et puis Galates 1, verset 1 et 2. Alors, vous savez aussi que lorsqu'il y a un héritage, vous allez chez le notaire, et le notaire, qu'est-ce qu'il sort? Voilà, c'est bien, il y en a qui suivent, sur la droite là. Il sort un testament. Et justement, comme par hasard, il y a deux livres qui s'appellent testament. Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Mais c'est au travers de ce testament, là, ce livre est un testament. C'est-à-dire que ce livre est basé sur les promesses qui sont affirmées par celui qui l'a écrit. C'est ça, un testament. Et ce que nous allons faire ce matin, c'est ouvrir ce livre, en fait, et voir en quoi consiste notre héritage. Vous êtes prêts? Ça vous va? Hein? Et j'aimerais qu'on lise, avant d'aller dans cet héritage, Éphésiens 1,18, comme une prière. Hein? Éphésiens 1,18. Seigneur, puisses-tu éliminer les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel dans nos vies, quelle est la richesse de la gloire de notre héritage qu'il nous réserve à nous les saints. Ça vous va comme prière, ça? Vous êtes d'accord avec cette prière? On l'a pris ensemble? On y va ensemble. Hein? On essaye de se l'attribuer. Hein? Qu'il élimine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il me réserve, moi qui suis son saint. Hein? Amen. Ok. Première chose que nous allons voir concernant la plus belle chose que nous héritons, à votre avis, c'est quoi? Pardon? Alors, j'entends la vie éternelle ici. Alors, c'est vrai, mais ce n'est pas la première chose, la plus belle chose qu'on reçoit. Alors, on va le lire. On va le lire. Première chose, psaume 16, verset 5. Psaume 16, 5. Alors, donc ça, c'est une traduction Louis II. Hein. Non, c'est bon. Tu peux revenir au 5, verset 5. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. En fait, dans ce verset, il y a plusieurs mots qui parlent d'héritage. Et quand il dit « l'Éternel est mon partage », ça veut dire littéralement « l'Éternel est mon héritage ». Autrement dit, la première chose que nous héritons, c'est Dieu lui-même. Waouh ! Vous avez le droit de dire « waouh ». Waouh ! Je vais le redire parce que je ne vous sens pas très enthousiaste. Hein. La première chose que nous héritons, c'est l'Éternel lui-même. Alléluia ! Hein ? C'est pour cette raison que vous dites, vous comprenez que quand dans la Bible il est question de « mon Dieu », ce n'est pas simplement une expression sympa, ça veut dire vraiment « tu es mon héritage ». Et parce que l'Éternel est mon héritage, il est mon Dieu. Alléluia. L'Éternel est mon héritage. Et à cause de cela, parce qu'il est mon héritage, regardez, il dit, parce que tu es mon héritage, je vais m'occuper de ton héritage. Et c'est la suite, c'est la conséquence logique de ça. Regardez, le verset 5 toujours, hein, et puis on verra le 6 après. Et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot. Lot aussi, un mot qui parle d'héritage. Mon lot, c'est ce qui m'a été loti, ce qui m'a été accordé. Hein. Et verset 6 maintenant. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Waouh ! Ça, c'est pour dire que l'Éternel est déjà notre héritage et c'est lui qui va assurer cet héritage. Donc, je vais vous demander, je ferai une interrogation orale à la fin. On va parler de 8 choses qui se trouvent dans cet héritage. Vous devrez être capable de me dire ces 8 choses à la fin du culte. D'accord ? Vous n'avez pas l'air très d'accord. Ok. Hein ? Donc, première chose, l'héritage. L'Éternel lui-même. Deuxième chose concernant l'héritage, c'est psaume 127, verset 3. Alléluia. Seigneur, donne-leur de l'enthousiasme, s'il te plaît. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Waouh ! Voilà. Les enfants sont un héritage de l'Éternel. Alors, est-ce qu'il y en a qui étaient là avec nous à la pastorale ? Levez la main. Ok. Vous voyez ce que ça veut dire dans la résonance de ce que nous avons partagé pendant cette pastorale ? Hein ? Les enfants que Dieu nous donne. Alors, je vais vous dire, je pense que dans ce verset, il y a deux styles d'enfants. Et les enfants que vous avez reçus de votre épouse, de Dieu au travers de votre épouse, bien sûr. Mais aussi les enfants que vous recevez de Dieu au travers de l'épouse qui s'appelle l'Église. C'est-à-dire que les enfants spirituels aussi que Dieu vous donne. Autrement dit, nous devrions tous avoir dans nos vies des enfants naturels et des enfants spirituels. C'est un peu bizarre de dire comme ça, c'est pas tellement juste parce que nos enfants aussi devraient devenir des enfants spirituels. Mais nos premiers disciples, ce sont nos enfants. Et nous devrions faire comme le Christ qui a passé une nuit entière finalement à prier pour que Dieu lui donne des disciples. Nous devrions être des disciples. Parce qu'un chrétien, mes amis, c'est pas un mouton, c'est une brebis. Or une brebis, elle met bas, elle enfante. Un mouton, il suit. Et nous ne sommes pas appelés des moutons. Il n'y a rien de plus éloigné du vrai christianisme, au fond, que l'image du mouton. Les chrétiens ne sont pas des moutons. Nous ne sommes pas des moutons, nous sommes des brebis qui enfantons, qui allaitons. Donc nos enfants sont un héritage de l'Éternel. Troisième chose que nous héritons, c'est psaume 119, verset 111. 119, 111. Voilà. Tes préceptes, hein, sont pour toujours mon héritage, qui sont la joie de mon cœur. D'autres versions vont dire tes commandements, tes préceptes, ta parole. La parole de Dieu dans son ensemble est notre héritage aussi. Hein. Gloire à Dieu. Troisième héritage, donc, sa parole lui-même. Elle nous est confiée en héritage. Et c'est notre rôle aussi, et ça, c'est, ça tient aussi à l'héritage, c'est que lorsque nous recevons un héritage, nous devrions chercher à le transmettre. Vous savez, je vais vous dire une chose que je crois profondément. Je ne sais pas si vous êtes appelés à hériter dans vos familles, mais avant, écoutez bien ce que je dis, je suis très sérieux, hein, avant d'hériter quelque chose et de dire on va le vendre, assurez-vous que ce soit vraiment la volonté de Dieu. Et posez-vous plutôt la question de savoir comment cet héritage pourrait rester dans la famille et continuer quelque chose du royaume de Dieu dans la famille. Ensuite, vous pourrez prendre votre décision, mais s'il vous plaît, posez-vous d'abord cette question-là. J'étais dans un séminaire où je parlais de cet héritage justement. Il y avait des parents qui étaient là, qui sont venus me voir et dit, écoutez, heureusement qu'on a entendu ça, on s'apprêtait à vendre une maison et on a oublié d'en parler aux enfants. J'ai dit, vous êtes stupides. J'ai été carré, hein. J'ai dit, vous êtes stupides, faites pas des choses pareilles, prenez le temps de la prière. Si vos enfants vous disent non, ça ne nous intéresse pas, ok, vous ferez, mais s'il vous plaît, posez, interrogez-les, parce que peut-être qu'ils pourraient racheter l'héritage, et l'héritage resterait dans la maison. Il y a quelque chose du royaume de Dieu qui est lié à l'héritage, il faut faire attention, ce n'est pas simplement des choses comme ça, hein, que l'on décide à la va-vite, ça devrait être fait dans la prière. Donc cette parole aussi, nous sommes appelés à la transmettre comme un héritage. C'est la raison aussi des écoles chrétiennes en France, c'est la raison de l'Église. Qu'est-ce que nous sommes finalement? Nous sommes des gens qui passons cet héritage à une autre génération, hein, l'héritage de la parole de Dieu. Quatrième aspect de l'héritage, c'est Hébreux 1,14 nous introduit au ministère des anges au travers de ce verset-là. Et voilà ce qu'il est dit. Ne sont-ils pas donc les anges des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia! Alléluia! Et là, on peut dire waouh! Le salut! C'est ce que disait Anne tout à l'heure, le salut, la vie éternelle. Hein. Ça, ça fait partie de notre héritage. Et en général, lorsqu'on interroge les chrétiens, ça, ils le savent. C'est étonnant. Je vais vous dire une chose, on va parler de 8 points d'héritage. Ça, c'est le plus connu. C'est le plus connu. Après, il y a peut-être le point 2, hein, les enfants. On sait moins que la parole de Dieu est notre héritage, et on sait moins que Dieu lui-même est notre héritage. Donc ça, c'est vraiment le plus connu, donc je ne vais pas m'y attarder. Ça fait tellement longtemps qu'on prêche là-dessus. Hein. Ensuite, on va passer à une autre forme d'héritage aussi, qui est assez inattendue, qui se trouve dans Ésaïe 54, verset 17. Dans Ésaïe 54, verset 17, nous allons découvrir un aspect de notre héritage aussi, qui est assez extraordinaire. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ça, c'est un héritage qui est complètement lié au précédent. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui te condamne en justice? C'est l'accusateur qui vient avec une justice et te dit, tu es pécheur, tu es pas... Et Luc nous a rappelé tout à l'heure, Bible en main, que nous étions justifiés, que nous étions saints, et que donc nous devons condamner toute parole qui vient de l'enfer et qui vient prononcer quelque chose de différent concernant notre justification, concernant notre sainteté, concernant notre salut. Nous devons condamner ces paroles fermement. Ça, c'est un héritage. Mais un héritage n'est activé que lorsque nous le recevons et que nous le mettons en pratique. Hein. Ça, ça fait partie aussi de notre héritage, de pouvoir condamner la condamnation. Nous sommes bénis. Et à cause de ça, à cause de cette bénédiction qui vient de Dieu lui-même, nous pouvons condamner la condamnation. quelle puissance. Je parlais avec un jeune homme encore récemment, il me disait, mais quelle joie d'être chrétien. Quand je vois tout autour de moi, tous ces gens qui n'ont pas le Seigneur, qui vivent tellement de galères. Ça ne veut pas dire que nous ne vivons pas des galères, mais c'est comme ce que la Bible dit, il y a le bon grain qui pousse, il y a l'ivraie qui pousse. Ne vous étonnez pas que les deux choses poussent dans vos vies, c'est la réalité du royaume de Dieu. Jésus a dit, non, on ne va pas enlever l'ivraie tout de suite, parce que si on enlève l'ivraie tout de suite, ça risquerait aussi d'enlever le bon grain. Autrement dit, la réalité, je pense, d'un chrétien, très honnêtement, soyons vrais, c'est qu'en même temps que la bénédiction de nos vies, on voit aussi qu'il y a un combat qui est là. Mais si vous regardez bien vos vies, c'est jamais l'un sans l'autre. Si vous voulez simplement une vie qu'avec que de la bénédiction et aucune malédiction, ce monde n'est pas fait pour vous. Ce n'est pas notre expérience à nous, chrétiens. Notre expérience à nous, chrétiens, c'est les ténèbres profondes couvriront les nations, mais sur toi se lèvera le soleil de justice. Alors que les ténèbres augmentent, la justice brille plus. Alors que le royaume des ténèbres essaye de croire qu'il va prendre le monde, la lumière du royaume de Dieu brillera plus sur nous pour manifester le vrai royaume. C'est une lutte de royaume qui est en... Mais ne quittez pas ce monde, mes amis, croyant que c'est à cela que Dieu vous appelle. Il y a un royaume de Dieu qui est là et qui doit briller, hein, et qui doit subjuguer le royaume des ténèbres. Une autre chose aussi qui est absolument glorieuse, et on va le voir, c'est notre cinquième part d'héritage. Alors, on révise les quatre premières. Premier héritage. Deuxième. Trois. Quatre. Cinq. Voilà, condamner la condamnation. Hein. Six, nous trouvons cette sixième aspect dans 2 Corinthiens 5, 1. De Corinthiens 5, 1, et là je voudrais m'arrêter un petit peu, méditer un peu ce passage. Regardez, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et là j'aimerais vraiment qu'on s'arrête un petit peu. De quelle demeure s'agit-il? C'est notre corps glorifié. Qu'est-ce qui a dit ça? Waouh! Excellent. On distribue des bons points dans cette église ou quoi? Je veux dire, c'est super. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Hein. Oui, je vais vous dire, moi, je n'ai pas répondu. Quand j'étais jeune chrétien, je pensais qu'il y avait une sorte de hôtel Hilton, 6 étoiles dans le ciel, tu vois. Et je me voyais un jour arriver après ma mort, comme ça, désincarné, dans le ciel, comme ça, avec des nuages, comme ça. Une rue pavée d'or, comme ça, puis arriver dans un super hôtel et m'adresser, tu sais, au groom, voilà, c'est Pierre Kranga. Et le groom dire, m'inviter à rentrer. Je serais arrivé à une sorte de bureau, comme ça, avec ses plein de clés, comme ça, derrière le gars, Pierre Kranga. Et quelqu'un m'aurait remis une clé, l'ascenseur se trouve par là. Je serais allé dans un ascenseur céleste qui m'aurait monté, comme ça, dans les chambres du haut. Et je serais arrivé dans un appart, mais alors, à couper le souffle, quoi. Et franchement, c'est l'image que j'avais. Et vous savez pourquoi j'avais cette image? Parce que je suis un enfant de la Grèce, comme vous tous. Nous sommes, en naissant, devenus des enfants de Javan, des fils de la Grèce. Et c'est comme ça que finalement, la Grèce a façonné notre cerveau en pensant à ce que peut être le paradis. Le paradis grec... C'est un paradis désincarné. C'est un paradis qui s'oppose à la matière. Il ne faut surtout pas que la matière soit là, parce que la matière, c'est mauvais. Plus c'est immatériel, plus c'est sain. C'est le platonisme, c'est ce qu'on appelle le dualisme. C'était tellement présent, même pendant la première église, au premier siècle, que des gens se retiraient même de leur corps, s'ils le pouvaient, pour essayer d'accéder au divin. Ça a été une hérésie, mais incroyable. Ça a fait des dégâts. Parce qu'il y a même des gens qui ont dit, surtout ne vous mariez pas à cette époque-là, etc. Et ça produit des... Le fait que même la sexualité est suspecte, parce que la sexualité avait quelque chose à faire avec la matière, avec les corps. Or, justement, vivre spirituellement, c'est sortir du corps, etc. Oh là là. Ça s'appelle du gnosticisme, du dualisme, appelle la philosophie grecque au fond, hein, c'est Platon, etc., qui appelait le corps un tombeau. le tombeau de l'âme. Le corps n'a jamais été un tombeau pour l'âme, c'est le temple du Saint-Esprit. Et faites attention, mes amis, il y a une guerre actuellement dans les lieux célestes. Hein. Pas seulement en Grèce actuellement, mais la Grèce est en crise en Europe. Il faut que la pensée grecque soit en crise. Et qu'est-ce qui confronte la pensée grecque si ce n'est la pensée du royaume de Dieu? Autrement dit, après, pendant des décennies, oui, pratiquement plus d'une décennie, avoir vu dans ma tête une forme de paradis grec de cette manière-là, fort heureusement, le Seigneur m'a montré une autre chose. C'est que cette demeure-là, cet édifice, ce n'est pas un édifice fait de main d'homme, c'est l'édifice de votre nouveau corps qui vous attend. Qui vous attend dans les cieux et qui descendra sur vous à la résurrection. C'est la nouvelle demeure. C'est là où nous devons habiter. Si ce corps est déjà un temple, il est déjà une demeure. Le nouveau sera aussi un temple et sera aussi une nouvelle demeure. Exactement comme le corps ressuscité de Christ, qui était le temple, je suis le vrai temple. Lorsqu'il est ressuscité, il reste le temple, il reste la demeure, de Dieu avec une matérialité. Il est capable de manger des poissons avec ses disciples, mais une matérialité aussi qui est liée à de nouvelles capacités, capables aussi de disparaître. Il y a donc dans la résurrection une continuité et une discontinuité. Une continuité dans le sens où quelque chose de ce qui est là en ce moment va ressusciter. Puis en même temps, cette chose ressuscitée qui nous attend dans le ciel, finalement le ciel, il faut le voir comme Catherine Kuhlmann l'a vu, comme une sorte de grand vestiaire. Vous savez, Catherine Kuhlmann, le secret de son ministère, c'est qu'un jour Dieu lui a montré le ciel. Il lui a montré le ciel avec des corps. Mais je comprends maintenant, il lui a montré ça. Il lui a montré la réalité de ce verset. Autrement dit, comment on appelle, vous savez, dans ces maisons, l'endroit où on met les vêtements, là. Le dressing, voilà, c'est ça, hein. Le dressing. Tout le monde rêve maintenant d'avoir une chambre avec un dressing, je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, nous avons un dressing. Hallelujah. Ce dressing se trouve dans les cieux. Les cieux sont un lieu de dressing. Vous savez, ce verset, si nous l'abordons avec une vision gnostique des choses, nous croyons que pour habiter ce lieu, il nous faut monter au ciel. Or, ce n'est pas ce qui est dit. On va lire un deuxième passage. Il dit que dans les ciels, nous est réservée une demeure. Mais cette demeure, elle va descendre à la résurrection sur nous. De la même manière que la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, mes amis, elle descend du ciel. Alors c'est très étonnant parce qu'il y a une partie du christianisme qui considère que la seule manière finalement d'être sauvé, c'est de quitter le monde. Or, quand on lit le livre jusqu'à la fin, on lit la Bible jusqu'à la fin, le mouvement de Dieu n'est pas un mouvement ascendant. Le mouvement qui résume la Bible dans son entièreté n'est pas un mouvement ascendant. C'est un mouvement descendant et je vis descendre la Nouvelle Jérusalem. Ça veut dire la venue de ce qui est dans le ciel sur la nouvelle terre. Et c'est parce que le ciel descend sur la terre que la terre devient renouvelée, qu'elle est renouvelée pleinement. Ça porte un nom. J'aime ce mot. Vous ne pouvez pas savoir comme ce mot est devenu un amour pour moi. La rédemption. Autrement dit, ce que je sens dans le corps du Christ, et il faut qu'on s'accorde là-dessus, une sorte de guerre en nous, savoir est-ce que le salut est dans le fait d'échapper ou est-ce que le salut est dans le fait de la rédemption. Fondamentalement, il y a deux théologies finalement qui s'opposent. Soit la théologie de l'échappement, la fuite, soit la théologie de la rédemption. Et plus je lis l'Écriture, plus je découvre la théologie de la rédemption. Dieu veut racheter, pas seulement notre âme, mais il veut racheter les nations tout entières. Il veut racheter la création tout entière qui souffre actuellement. Non pas à cause de lui, non pas à cause d'elle, mais à cause de nous, les hommes. Je suis étonné, vous savez, dans ces problèmes écologiques qu'il y a eu ces derniers temps, ça aurait dû être l'Église qui aurait dû être leader du mouvement écologique. Où est l'Église dans ce mouvement écologique? Où est-elle? Est-ce que parce que l'Église a pris le ciel, qu'elle ne s'intéresse plus à la terre, qu'elle ne s'intéresse plus à l'écologie, quel est notre problème là? Hein? si vraiment nous croyions vraiment à la rédemption et pas seulement de notre âme. Notre âme, c'est que le début, c'est tout petit, une âme. Je suis désolé, mes amis, mais l'univers est bien plus grand que ton âme. Dieu, l'œuvre de Christ dépasse bien simplement le salut des âmes. Ça, c'est très grec de se limiter qu'au salut des âmes. Il y a dans le Christ, dans l'œuvre du Christ sur la croix, il y a beaucoup plus que ça. Il y a la rédemption de l'univers tout entier. On a prêché un petit salut. C'est pas étonnant qu'on ait un petit Christ. Le Seigneur vient pour racheter. On va lire un autre passage qui parle de, justement de ce nouveau corps comme étant dans le dressing. Ah oui, je vous parlais de Catherine Kuhlmann. Le Seigneur lui montre ce dressing dans les lieux célestes. Et Catherine Kuhlmann, je vais vous dire, voilà le secret de cette femme. C'est d'avoir le toupet, l'audace de la foi, de dire, je ne vais pas attendre la résurrection, je vais aller chercher pour telle personne qui est malade, la partie de son corps qu'elle a besoin pour recevoir la guérison. Elle est allée se servir dans la foi pour annoncer la résurrection. La guérison, mes amis, n'annonce pas le fait que nous allons quitter ce corps. La guérison annonce le fait que ce corps va ressusciter. Et que si Dieu ressuscite les corps, si Dieu guérit les corps, c'est qu'il peut aussi guérir un corps social. Si Dieu touche la matière, c'est qu'il peut toucher aussi la création dans son ensemble. Jamais ne regardez une guérison pour la guérison elle-même. Jamais Jésus n'a fait une guérison que pour guérir un corps. Jésus, quand il a guéri pour être un signe. Je vous le dis en vérité, si ces miracles avaient été faits à Tyr ou à Sidon, les gens se seraient repentis. Malheur à toi, Bethsaïda. Malheur à toi, Gorazim. Vous voyez, c'était la dimension de la ville. En guérissant, Jésus annonçait un message de guérison à la ville entière. Nous, ce que nous avons fait, à cause de cet évangile de salut complètement rétriqué, nous avons fait du salut du corps, la guérison du corps, seulement un signe pour le corps lui-même. Or, ce signe, c'est un signe prophétique. Quand Jésus ressuscite, il est en train de dire, le message de Jésus ressuscité, c'est quoi? C'est de dire que, eh bien, l'univers entier a ressuscité, est ressuscité avec moi, et toi, tu en fais partie. Même les impies sont ressuscités par Christ au travers de sa résurrection. Vous croyez que normalement, les impies devraient ressusciter simplement comme ça, de leur propre choix? Non. La résurrection de Christ est tellement puissante que non seulement les justes ressusciteront, mais les injustes aussi ressusciteront. Mais les uns pour le jugement, et les autres pour la vie éternelle. Ce que la Bible dit, c'est puissant. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce que j'ai découvert en étudiant ces histoires de résurrection, c'est que nous ne parlons de moins en moins de la résurrection dans nos églises. Nous sommes plutôt intéressés à ce qui se passe après la mort. Mais regardez ce qui, dans l'Écriture, il y a très peu de passages qui nous parlent de ce qui se passe après la mort. Si ce n'est qu'il s'est endormi dans le sein d'Abraham avec ses pères. Mais qu'est-ce qui se passe? On veut savoir ce qui se passe après la mort. Mais dans l'Église primitive, si on posait la question à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe après la mort? Il y aura la résurrection. Oui, mais tu sais, dans ce mouvement intermédiaire-là, mais ça c'est des préoccupations grecques complètement. La préoccupation juive, la préoccupation hébreu de la première église, c'était « Nous mourrons et nous ressusciterons. Nous ressusciterons. » Si tu veux savoir, ne te préoccupe pas de ce qui se passe entre le moment de ta mort et ta résurrection, ce n'est pas le plus important. Le plus important, l'objectif final, c'est la résurrection. Parce que même si tu savais ce qui se passe dans ce mouvement intermédiaire, ce serait qu'un temps intermédiaire, ce n'est certainement pas la finalité des choses. Autrement dit, c'est bizarre cette image d'un paradis grec dans lequel nous irions tout de suite après la mort. Et attendez, mais s'il y a un paradis grec, qu'ai-je besoin d'une résurrection? Vous me suivez? Plus j'insiste sur la vie après la mort, plus j'insiste sur ce monde, plus je diminue la gloire de la résurrection, plus ça devient tout à fait superfétatoire, plus ça devient inutile. Qu'ai-je besoin d'un corps si le paradis m'attend après la mort? Vous voyez ce que je veux dire? Attention, le christianisme nous parle d'une réalité qui parle de la résurrection. Il y a quelque chose de la nouvelle création qui vient et tu auras besoin d'un nouveau corps ressuscité pour la vivre. Nous allons lire un autre passage qui se trouve dans 1 Pierre 1,4. Il est parlé encore de ce corps, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Mais cet héritage-là parle du corps glorifié, ce corps de résurrection que nous allons recevoir. Ça parle de ce dressing, des lieux comme dressing. Ce corps ne peut pas se corrompre, ne peut pas se souiller, ne peut pas se flétrir. Il nous est réservé dans les cieux. Autrement dit, mes amis, écoutez bien. Ces versets nous ont donné à croire qu'afin d'être dans ce salut, il fallait entrer dans le ciel et y demeurer. Ce n'est pas ce que l'Écriture dit. L'Écriture nous dit que ce qui nous est réservé dans le ciel. C'est un peu comme un cadeau. Avant, le 24 décembre, vous mettez les cadeaux dans un placard. Ils sont réservés aux enfants. Mais le 25 décembre, vous sortez les cadeaux du placard pour que les enfants les ouvrent au pied du sapin. C'est pas parce que quelque chose vous est réservé quelque part que l'enfant doit monter dans le placard pour dire « ça y est, alléluia, j'ai mes cadeaux ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme les vêtements dans le dressing, ils sont là dans le dressing, tu rentres dans le dressing et tu sors du dressing pour être habillé. Mais tu ne vas pas passer ta vie dans le dressing en disant « alléluia, ce nouveau costard est super, I got the power ». C'est où tu vas commencer à danser devant tes miroirs qui sont dans le dressing, « I got the power ». Non, si tu reçois ton costard, ton nouveau habit, c'est pour sortir du dressing avec. Alléluia. On va passer au septième point maintenant, et qui va avec celui-là. Et on va lire Jacques 2, verset 5. Et là, nous arrivons à notre septième aspect de la résurrection, et j'arrive bientôt à la fin du message, donc ça va aller. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Ici, donc, nous apprenons que nous sommes aussi héritiers du royaume. Nous recevons un royaume. Ce royaume porte différents noms dans la Bible. Le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, royaume de Dieu? Ça veut dire dont Dieu est le roi, le royaume de Dieu, le royaume qui émane de Dieu, d'accord? Une autre expression maintenant, soyez attentifs, une autre expression équivalente. Royaume de Dieu, c'est aussi royaume des cieux. Ça ne veut pas dire le royaume qui se trouve au ciel. Ça veut dire le royaume qui émane du ciel. C'est-à-dire que soyons pas grecs au point de croire que pour vivre ce royaume, il faut quitter la terre. Souvenez-vous de la prière de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui, etc., notre pain. Autrement dit, la prière de Jésus, ça n'a pas été de dire « Seigneur, je te prie que tu les ôtes du monde. » Sa prière est dit « Je te prie que tu ne les ôtes pas du monde, mais que tu les gardes de l'esprit du monde. » Et la meilleure manière de garder quelqu'un de l'esprit du monde, c'est de lui donner l'esprit du royaume de Dieu. Une autre possibilité aussi, et on va les lire tout de suite. J'avais jamais lu ce verset. Franchement, je confesse comme un péché devant vous. Ou alors, je pense que je l'avais lu, mais je n'avais jamais vu ça. Vous allez lire avec moi Apocalypse 11, 15. Voilà, lisez ce verset, vous allez me dire s'il n'y a pas quelque chose d'un peu étonnant dans ce verset. Allez-y. Qu'est-ce qui vous paraît étonnant là? Voilà, pour la Grèce qui est en nous, le grec, le fils de Javan qui est en moi, a été choqué en lisant le royaume du monde. Waouh, est remis à notre Seigneur et à son Christ. Autrement dit, il y a trois expressions qui sont équivalentes dans la Bible. Vous avez royaume de Dieu, royaume des cieux, royaume du monde. Le royaume des cieux parle du royaume d'où le royaume émane, comme le royaume de Dieu. Et le royaume du monde, c'est le monde où le royaume est destiné. Donc il y a un royaume du monde qui sera offert à Dieu. Et la dernière part d'héritage qui nous est confiée, on va la voir maintenant, après avoir vu le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le royaume du monde, se trouve dans Matthieu 5, 5. On va le lire ensemble. Heureux les débonnaires, car ils hériteront quoi ? La terre. Je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous n'hériterez pas les cieux. D'ailleurs, c'est mieux, parce que les cieux sont un lieu de stockage. Il vaut mieux hériter la maison que le dressing, si tu veux. Si tu veux habiter dans le dressing, c'est à toi de voir. Moi, je veux la maison entière. Et Dieu ne nous appelle pas à habiter dans le dressing. Je veux même vous dire qu'il y a un passage, je ne sais pas si on a le temps de le lire, mais il y a un passage qui dit, écoutez bien, les cieux appartiennent à l'Éternel et la terre appartient au Fils des hommes. C'est comme si Dieu dit, les cieux, c'est à moi. Et c'est de là que je règne sur la terre, c'est là qu'on stockait toutes les bénédictions pour la terre. Donc, j'ai pas de problème avec le fait d'aller dans les cieux à condition que vous preniez quelque chose là et puis vous le rameniez sur la terre. Mais si vous allez dans les cieux pour habiter les cieux, là il y a quelqu'un qui vous attend, qui s'appelle la reine du ciel et qui va vous coincer là. La reine du ciel, elle prétend coincer les gens dans cette dimension-là. Elle connaît rien du ciel à mon avis, hein, franchement. Hein. Mais elle coince les gens dans le deuxième ciel ou le premier, je ne sais pas trop, pour pouvoir les maintenir hors de la terre. Je vais vous dire une chose qui m'a énormément choqué. J'étais pour une formation d'enseignant vers laquelle Luc m'avait envoyé au Mali. Et alors que je parlais sur ces choses d'héritage, je découvre une chose, c'est que nos amis chrétiens, parce qu'on leur a prêché pendant pratiquement un siècle, plus d'un siècle, un évangile du ciel, vendent l'héritage de leurs parents aux musulmans qui achètent les terres pour rien. Parce que dimanche après dimanche, on leur dit que cette terre, on est des passants sur cette terre et qu'on est appelé à habiter au ciel. Il y a une dévalorisation dans l'Église telle de tout ce qui est business, parce que l'argent est mauvais. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Ce n'est pas un problème de posséder de l'argent, le problème c'est d'être possédé par lui. Que nos amis ont vendu. Quand j'ai prêché ça, moi je ne savais pas quelle était la situation. Tout d'un coup, alors que j'étais en train de prêcher ça, il y a eu un tumulte au milieu de nous. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et les gens ont dit, mais vous rendez compte? Moi, il n'y a encore pas longtemps, j'ai vendu tel terrain. Puis quelqu'un a dit, mais tu sais Pierre, le vendredi à Koutiala, c'est ville morte parce que c'est le jour saint des musulmans et on a tellement tout vendu, on n'a même plus aucun commerce. Le vendredi, ville morte à Koutiala. Parce que les chrétiens se sont retirés du monde. Mes amis, l'Église a fait une sorte de pacte avec le diable. Ou plutôt, le diable a proposé un pacte à l'Église au travers du gnosticisme, du dualisme, au travers de fausses doctrines, en disant principalement ceci, je vous laisse le ciel si vous me donnez la terre. Souvenez-vous de ce que le diable a dit en venant voir le Christ, tous ces royaumes m'ont été donnés. Vous croyez que le Christ est venu simplement sur la terre pour dire au diable, bon, ok, garde ta possession, nous de toute façon, moi je vais travailler un chemin vers le ciel. Non, le diable, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, en vainquant Satan dans le désert, est venu lui reprendre les clés du royaume des morts, est venu lui reprendre sa prétention à dominer sur les nations. Le Christ est venu reprendre ce qui lui appartient. Est-ce que nous, l'Église, nous allons redonner au diable ce qui nous a été donné en héritage ? Nous allons prendre un autre passage pour terminer, c'est Romains 4, 13. Bon, vous allez voir que ce n'est pas un passage isolé, ça. Romains 4, 13. Lisez-le pour vous-même et vous allez voir. Lisez-le comme un grec, premièrement, puis ensuite lisez-le avec la pensée du royaume de Dieu. Vous allez voir la différence de lecture que ça donne. n'est pas un évangile bizarre que vous entendez aujourd'hui. C'est l'évangile du royaume de Dieu tel qu'il est prêché par Paul lui-même. Regardez. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde. C'est bizarre qu'ils ne disent pas l'héritage du ciel, mais l'héritage du monde. Combien de fois vous avez lu ce passage comme un grec? Combien de fois l'avons-nous lu comme un grec alors qu'il fallait le voir avec d'autres lunettes? Moi, je l'ai vu seulement il y a quelques années seulement. Il m'a été masqué par ma grécitude. L'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Abraham, vous allez dire, oui, mais c'est normal, Dieu a donné Canaan à Abraham. Mais vous savez une chose, quand vous regardez comment Dieu s'y prend avec, il lui donne Canaan, qui est un petit pays. Mais une fois que Abraham est dans Canaan, Dieu lui dit, regarde au nord. Vous pensez que Dieu, quand il parle à un homme de foi qui s'appelle Abraham, il lui dit de regarder avec ses yeux naturels le nord? Quand Dieu dit à Abraham, alors qu'il est en Canaan, regarde au sud, vous croyez que Dieu s'adresse à un homme de foi pour qu'il utilise l'acuité visuelle de ses yeux physiques pour voir le sud? Quand Dieu dit à Abraham, regarde de l'est, est-ce que vous croyez que Dieu parle à l'homme de foi qu'est Abraham pour qu'il regarde avec des yeux naturels jusqu'au plus loin que ses pauvres yeux peuvent l'emmener? Et quand il lui demande de regarder l'est, est-ce que vous croyez que c'est de cela dont il s'agit? Autrement dit, Dieu lui parle de Canaan d'abord, il lui parle du connu, pour ensuite lui parler de la terre tout entière. C'est ce qui est écrit ici. Vous savez, les films américains nous ont trempés, pensant que Dieu avait offert une sorte de jardin à Abraham. Dieu n'a pas offert une sorte de petit jardin dans la terre du monde à Abraham, mais il lui a offert la création tout entière. Il lui a offert les nations. Demande-moi les nations pour héritage. Elles se trouvent sur cette terre-là. C'est étonnant, la terre nous est offerte, mais Dieu nous demande de demander les nations. Parce que les nations, c'est ce qu'il y a au-dessus de la terre. Et là, il nous faut les demander à Dieu, ces nations. Parce que c'est les nations, c'est comment Dieu va nous offrir la terre? En nous donnant les nations. Il faut que nous ayons les nations pour avoir la terre. Parce que, vous savez, chaque fois que les musulmans construisent une mosquée en France, c'est une terre d'islam. C'est plus pour eux une terre de France. Ça s'appelle la Oumma, la terre de la religion. Et ça aussi, je voudrais terminer là-dessus. Vous savez pourquoi je prêche comme ça? Parce que je suis missionnaire en terre musulmane. Et j'ai découvert comment pensaient nos amis musulmans. Mes amis musulmans, ils veulent le monde. Ils veulent la terre. Je croyais que j'allais passer ma vie à être missionnaire là-bas, plus jamais revenir en Europe. Quand j'ai vu comment ils pensaient, quand j'ai compris qu'ils voulaient la terre, je me suis dit, mais quelle est notre espérance? Quelle est notre eschatologie à nous, chrétiens? Et quand j'ai découvert que notre eschatologie, ça consistait à aller dans le ciel, j'ai pris peur pour l'Europe. J'ai commencé à sentir en moi une intercession, dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? À vouloir croire que la spiritualité, c'est vivre dans le ciel. La spiritualité, ça consiste à vivre le ciel sur la terre. C'est ça, la vraie spiritualité. Et quand j'ai commencé à découvrir ça, j'ai dit non, je ne peux pas simplement rester en terre d'islam, il faut que je sois aussi en Europe, je reste en Europe. Et mes amis, c'est l'anniversaire de l'Europe actuellement. J'aimerais que, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'anglais ici, mais il y a un livre de ce Robert Schuman qui vient de sortir, qui montre que l'Europe a des racines chrétiennes. Il faut qu'on lise ce livre, je ne sais pas s'il sera traduit en français. Si vous intéressez, écrivez-moi un email. Il existe en français sur... Ah ben c'est super alors, c'est super. Robert Schuman, créateur de l'Europe. La vraie source spirituelle donc de l'Europe. C'est ce qu'il nous faut reprendre, mes amis. On reprend donc ces 8 points. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin, il faut que je m'arrête là. Si vous voulez creuser un peu plus, je vais beaucoup plus loin dans le livre. Prenez-le et méditez-le. C'est une méditation du royaume de Dieu au travers donc la parabole des deux fils. On reprend les 8 points. Premier héritage, Dieu lui-même. Deuxième héritage, les enfants, les fils spirituels, nos enfants. Troisième héritage, la parole elle-même. Quatrième héritage, pardon, le salut lui-même. Hein. Cinquième héritage, condamner la condamnation. Sixième héritage, le corps hein, de la résurrection. Septième héritage, le royaume de Dieu. Huitième héritage, la terre. On peut se lever, les amis. Est-ce que je peux conduire ce temps de prière, Luc, ou tu veux le conduire? C'est bon? Est-ce qu'on pourrait simplement remercier le Seigneur pour ces 8 parts d'héritage? Père, moi je veux te remercier pour être mon premier héritage. Papa, tu es mon héritage. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est notre héritage. Merci Seigneur, nous te recevons comme héritage. Pas comme un plus dans notre vie, pour être notre vie. Merci Père pour cet héritage. Merci pour les enfants que tu m'as donnés, les 3 filles et puis aussi les fils et les filles spirituelles que tu m'as donnés. Donne à mes frères et sœurs des enfants. Donne à mes frères et sœurs des fils et des filles spirituelles. Quand le Seigneur vous donne des filles et des filles spirituelles, ne venez pas vous débarrasser vos fils et vos filles dans l'église, s'il vous plaît, sur le pasteur, sur les professionnels de l'évangile. Prenez votre responsabilité et faites-en des disciples vous-même, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci Seigneur pour ta parole elle-même. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le salut, pour le fait de condamner la condamnation. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce corps, ce vêtement, cette chose extraordinaire qui nous attend dans le ciel et que nous recevrons à la résurrection, que nous revêtirons à la résurrection. Mais nous revêtons déjà ici-bas le nouvel homme créé selon l'Esprit. Et qui prépare cette résurrection. Nous sommes déjà ressuscités, Seigneur, avec toi. Nous sommes déjà ressuscités. Nous sommes assis avec toi, Seigneur, dans les lieux célestes, en régnant avec toi, en règne. Seigneur, tu nous as confié aussi le royaume de Dieu. Nous sommes des fils et des royaumes de Dieu. Nous voulons manifester ce royaume de Dieu, être des agents de cette nouvelle réforme. Oh, merci Seigneur, merci pour cette nouvelle réforme, cette nouvelle compréhension du royaume de Dieu. Que l'esprit de révélation vienne dans nos églises, Seigneur, afin que nous voyons une jonction du prophétique et de l'apostolique, Seigneur, au nom de Jésus. Que les nations soient à nouveau, qu'on sache qu'il y a une église dans les nations d'Europe, qui veut pas simplement habiter le ciel, mais qui veut voir le ciel habiter l'Europe. Seigneur Jésus, nous voulons voir le ciel habiter l'Europe. Nous voulons voir le ciel habiter les nations. Que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, nous voulons être humbles au point de recevoir la terre comme héritage. Seigneur, pardonne-nous notre arrogance et notre orgueil d'avoir le prendre ce qui t'appartenait à toi seul. Seigneur, tu nous laisses venir de temps en temps dans les cieux pour prendre ce qui est à nous. Mais il nous faut rapporter ces choses sur la terre. Merci pour la terre comme héritage. Et Seigneur, parmi nos frères qui doivent hériter bientôt, Seigneur, de famille, donne-leur la sagesse de gérer les choses au mieux. Donne-leur une sagesse du royaume de Dieu, non pas une sagesse grecque, Seigneur. Et Seigneur, puisses-tu nous révéler que la vérité du paradis, qu'est-ce que c'est que le paradis si ce n'est que toi, habitant, Seigneur, au milieu de nous, dans la dimension de la nouvelle création, racheté, nettoyé des péchés passés, des souffrances passées. Merci, Seigneur, pour ce nouvelle terre, baignée de nouveaux cieux, que tu nous promets à chacun et que tu nous demandes de vivre en avance comme les arts de l'esprit. Merci Seigneur, bénis cette église Seigneur. Merci pour cette réconciliation de l'apostolique et le prophétique qu'il y a dans cette église. Puisses-tu Seigneur conduire les uns les autres plus loin encore dans cette dimension. Que ton nom soit béni Seigneur. Merci pour votre attention les amis.
Merci Pierre. Amen. Merci.